philosophie première, père Marie-Dominique Philippe, le 2 avril 1998 à Saint-Jodard.
L'essence, c'est la substance ou c'est l'acuité? C'est très bien comme question. Et est-ce que l'essai, ça fait beaucoup de bruit, hein, est-ce que l'essai actue la substance? La substance prise comme principe selon la forme de ce qui est un principe. Donc, il est en acte. Tu peux être actué. C'est dans l'ordre de l'intelligibilité. Mais d'une intelligibilité première. C'est une distinction qui est le fruit de la découverte de l'être en acte. Dès que je découvre l'être en acte, je découvre l'être en puissance. Dès que je découvre la substance qui est première, je découvre l'être accident. On dira que la distinction première du thomisme, c'est de distinguer que dans toute créature, et j'insiste bien, dans toute créature, souligner trois fois créature, il y a une distinction réelle entre essence et existence. C'est donc cela. Un jugement de sagesse. Puisque vous parlez de créature. Quand je vous vois, je ne vous dis pas « Oh, quelle belle créature !» Je peux le dire dans un jugement de sagesse. Mais je n'ai pas l'expérience de la créature comme créature. Si vous aviez l'expérience de la créature comme une créature, vous aviez l'expérience de Dieu. Parce que la créature est toute relative à Dieu. À Dieu comme créateur. Alors comprenez bien, oui, c'est là où la scolastique, hein, tu peux tout mêler. Jugement d'existence, jugement de sagesse, expérience, tout. Quand saint Thomas pose la question de la simplicité de Dieu, première question du théologien à l'égard de Dieu, il montre qu'en Dieu, il n'y a pas de distinction entre essence et existence. C'est un jugement de théologien, donc un jugement de sagesse. Toute la théologie est sagesse. Puisqu'elle part de Dieu qui me parle, part du jugement de foi qui adhère au mystère de Dieu. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de saisir et de comprendre. Quand vous dites toute créature, une distinction réelle, ça, il faut connaître ce point de vue. Point de vue thomiste, c'était un des points de vue tout à fait premier. Mais vous comprenez qu'on commence pas la philosophie par un jugement de sagesse. Et on commence la théologie par un chemin de sagesse. C'est là toute la différence. Si vous commencez la philosophie par un chemin de sagesse, vous risquez de devenir hégélien. Vous confondez le chemin de sagesse et l'expérience. Alors, quand on dit en théologie que dans toute créature il y a une distinction réelle entre essence et existence, on veut dire que dans toute créature il y a une fêlure dans l'être, dit Kierkegaard. Il faut en faire mémoire aujourd'hui. Une fêlure, une distinction réelle. C'est les vieux murs, il y a des fêlures. Et un bon architecte s'aperçoit que la fêlure dépend d'une cause profonde, du tremblement de terre. Qui a fait ça? Et la créature, elle est toujours portée par Dieu. N'était pas porté par Dieu. La fêlure ferait qu'il n'y a plus que le néant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est que la potentialité radicale d'un être créé, c'est justement de ne pas exister. Lui-même. Je n'existe pas par moi-même. Je n'ai pas assisté à ma création. C'est très ennuyeux, ça. Parce que avant la création, je n'étais pas. Des anges ont assisté à ma création. Je crois. Parce qu'ils sont quand même les frères aînés. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas assisté à ma création. Et je n'ai pas assisté à la vôtre. Quand même, j'avais un droit d'aînesse. Eh bien non. Je n'ai pas le droit d'aînesse. Au point de vue création. Puisque je suis totalement dépendant de l'acte créateur de Dieu. La créateur de Dieu, vous voyez, m'a communiqué, laissé l'acte d'être. Exister. Je participe à l'exister de Dieu comme être premier, comme créateur. Il y a donc en moi celui qui reçoit et celui qui est en acte. Je reçois tout de Dieu puisque l'acte créateur est à partir de rien. Et mon exister implique nécessairement une limite. Mon exister est reçu. Ah, il est reçu. Quand je dis il est reçu, il est. Il est limité. Et si je l'analyse, je vois que le fruit premier de l'analyse, en tant que je suis dépendant de l'acte créateur, c'est qu'il y a celui qui reçoit et celui qui est. Je participe à l'acte créateur de Dieu, à l'essai de Dieu. Alors, au plan philosophique, on part du jugement d'existence. Le jugement j'expérimente des réalités complexes, des réalités en devenir, et j'expérimente qu'elles existent. J'expérimente donc des déterminations qualitatives et quelque chose de commun. Tout cela existe. Et j'arrive à l'induction du principe à partir de ces deux expériences ultimes, la substance première et la substance seconde. Et il y a quelque chose au-delà de cette distinction qui est ce principe propre selon la forme de ce qui est. Donc je ne parle pas encore des sens. Mais, alors c'est ça qui est intéressant à voir, tout le courant d'Avicenne, néoplatonicien, en partie, et en partie aristotélicien, puisque les grands néoplatoniciens n'ignorent pas Aristote. Vous verrez ça dans Plotin. Ils disent des choses intéressantes sur Aristote qui ne sont pas vraies, mais qui sont intéressantes au point de vue historique et au point de vue érudition. C'est intéressant d'avoir l'opinion d'un Plotin par rapport à Aristote. Ce serait une manière d'entrer dans l'aristotélisme. Ce serait de faire du Plotin avec vous. Et c'est vrai, je crois que Plotin, vous le saisiriez très facilement. C'est pour ça que quand vous avez besoin de vous reposer, lisez une Énéade de Plotin. Pas trop, mais une Énéade de Plotin. Et vous voyez, c'est beaucoup plus facile à comprendre. C'est descriptif. C'est descriptif. C'est très proche de la fumologie. C'est intéressant ce point de vue-là. C'est qu'on voit que cette pensée seulement, en bon aristotélisme, le mot essence ne devrait apparaître que dans un jugement de, que dans un jugement de sagesse.
Point de vue de l'intelligibilité.
en substance dans le sens fort. Parce que c'est des très grosses questions. Hein. La scolastique a tout mêlé là-dedans. Alors, il faut reprendre ces expressions d'Aristote. Puisque ce qui est sûr, c'est que phusis, la nature phusis, c'est toujours lié à l'expérience du devenir, principe propre de ce qui devient. Et qu'il y a une intelligence propre, l'acuité. Mais, alors on verra, est-ce que la nature c'est l'acuité? La nature a une acuité. La nature est intelligible en tant que... Si c'est l'intelligence propre de la nature, c'est l'acuité. êtres humains, les sens apparaît au plan philosophique dès l'induction de l'être en acte. Et je peux préciser que le premier poyonti de l'être en acte, c'est l'exister. Que le premier poyonti de l'être en puissance, c'est l'essence. Après, je peux préciser quelle distinction entre essence et phusis, nature. Essence et ousia. Quelle différence y a-t-il entre ousia, c'est un principe, nature, c'est un principe. Essence, est-ce que c'est un principe? Non. Il apparaît en puissance. Jamais un principe ne peut être en puissance. Il n'y a pas de premier dans l'ordre de la potentialité. Pourquoi? Parce que ce qui est en puissance est toujours dépendant de l'acte. Donc il n'est jamais premier. Le premier ne peut pas être en puissance. Le second peut être en puissance. Pensez tout simplement à l'ordre de procession. Vous serez celui qui portera la croix. Vous serez premier. Donc, vous avez le droit de savoir le parcours de la procession. On voit ça quand on fait le chemin de croix. Si le premier ne connaît pas le parcours de la procession, du chemin de croix, suis. Donc le second, puisqu'il suit, il n'est pas premier. Dès que vous suivez, vous n'êtes plus premier. C'est un bon mouton qui suit. Le premier, c'est l'intelligence. Mais quand le premier est un mouton, il répète et il sait pas. Il n'est pas digne d'être premier. Oui, l'agneau, parce qu'il porte l'iniquité du monde, il n'est plus premier. Là, ça peut, vous pouvez méditer ça. Hein. Parce qu'il porte l'iniquité du monde. Autrement, il pourrait être premier. Il y a eu un premier mouton. Mais dès qu'il porte premier, vous êtes hors série pour être premier. C'est très important de comprendre ce qui est principe, ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Dans l'ordre du devenir, dans l'ordre de l'intelligibilité. Donc le premier, il y en a un, deux, trois, dans l'ordre de l'être, dans l'ordre du devenir, dans l'ordre de l'intelligibilité. Ce qui est premier, les deux premiers, premiers, sont causes. Celui-là est uniquement principe dans l'ordre de l'intelligibilité, pas nécessairement dans l'ordre de la cause. Alors c'est ça qu'on appelle un axiome. Un axiome n'est pas premier dans l'ordre de l'être, il est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Il demeure premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Oui, et c'est pour ça que c'est ça qui est très difficile en métaphysique, c'est que notre langage n'est pas un langage métaphysique. Notre langage est au niveau de l'intelligibilité. Et de ce qui est non seulement l'intelligibilité, mais de ce qui est connu dans l'intelligibilité. oui, toute substance est essence. Vois-tu quidité, vois-tu intelligibilité. Toute essence n'est pas substance. Vous parlerez de l'essence de la qualité, du tiesti de la qualité. Non, c'est pas une substance. Ah, pourquoi c'est pas une substance? C'est parce que l'essence exprime la quidité, ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Tandis que substance exprime ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Or, tout ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité n'est pas nécessairement premier dans l'ordre de l'être. Sauf dans l'ontologisme, sauf dans le néoplatonisme. Alors, est-ce que l'essai actue la substance? Si je prends substance comme principe propre de ce qui est, selon la détermination, je dirais la substance est un principe. Donc, il est acte comme principe. Il implique l'essai. Il implique l'essai. Mais si je regarde dans sa réalisation propre, son poyonti, l'acte, l'essai, vient s'ajouter et vous direz ceci est. Or, ceci peut exprimer une substance, quelque chose de radical et de premier. Dans le ceci, il n'est pas indiqué que c'est toujours quelque chose de second. Si ceci est quelque chose de premier, il implique ceci est. Si le ceci implique quelque chose de second, c'est-à-dire la qualité, c'est-à-dire la quantité, c'est-à-dire la relation, il n'implique pas nécessairement l'essai. Est-ce que l'acte est transcendant ou immanent? Transcendant et immanent, ce sont des passe-partout. C'est bien d'avoir des passe-partout, n'est-ce pas? Dieu est transcendant, Dieu est immanent. L'être est transcendant, l'être est immanent. Donc l'être est Dieu. Oui, un très bon raisonnement. Ça montre bien que ça passe partout. Et c'est très à la mode, transcendant et immanent. Je me souviens, je vous l'ai déjà dit, à Fribourg, cette conférence de quelqu'un qui, normalien, venait de passer son doctorat, employait transcendant et immanent tout le temps. Alors on aboutissait à ce résultat. C'est très juste de dire qu'il est transcendant, mais on est transcendant par quoi? Par la quantité. Vous mesurez 2,10 m. Vous êtes transcendant. Dans une foule où tout le monde mesure 1,70 m, vous dépassez. La transcendance, on dépasse. Vous pesez un poids remarquable. Alors là, je n'indique plus. Un poids remarquable. Vous êtes transcendant quant à ce poids. Et certaines bascules ne peuvent pas vous. Vous êtes transcendant par rapport à cette bascule. On est transcendant quand on dépasse un ordre donné. On dépasse la tête. On dépasse du poids. On dépasse du soi en hauteur. Hein? Premier dans le soi en hauteur. Je ne sais pas ce que c'est actuellement. Mais dans le temps, ça m'intéressait. Maintenant, moins. Parce que je vois que cette transcendance, elle ne demeure pas très longtemps. Immanent, C'est la différence. Quand vous mesurez et qu'il y a foule, n'est-ce pas ? Vous sentez bien ce que c'est que l'immanence. Vous êtes réduit à voir quelqu'un en face de vous qui vous transcende d'un mètre. Alors vous savez ce que c'est que d'être immanent à ce moment-là. On est dedans. Immanent, on est dedans. On ne dépasse pas. Oui, alors transcendant, immanent, ce sont ces mots qu'on peut très bien employer. Hein. Je ne suis pas du tout... Mais un petit peu rhétorique. Parce que c'est toujours en référence à une mesure. On transcende telle mesure. L'océan transcende la mesure du litre. Ça, je crois. C'est Saint-Augustin. Il voit le petit gosse en face de l'océan qui veut mesurer l'océan avec un coquillage. Aujourd'hui, on dirait avec un litre. Il mesure l'océan. Il va chercher un litre, il le remplit d'eau. Puis le transvase dans l'immanence de son petit trou. Et comme un petit trou est fait dans le sable, il verse, ça disparaît. Puis il recommence indéfiniment. Il veut mesurer l'océan avec un litre. Pour Saint-Augustin, c'est merveilleux. Je veux mesurer la toute-puissance de Dieu avec ma force à moi. Je suis comme un enfant qui veut mesurer l'océan avec un litre. J'arriverai jamais à épuiser la transcendance de Dieu avec ma force. Mais ça montre bien que transcendance et immanence, ce sont des schèmes quantitatif. Alors, c'est très bien de les employer, parce que ça fait partie de la rhétorique. Quand on est fatigué de la métaphysique, on retombe vite dans la rhétorique. Alors on prend ces schèmes-là, et ça fait quelque chose de très transcendant. Votre conférence a été transcendante. Merci, merci. Alors on a envie de dire quel schéma imaginatif. C'est très immanent, j'ai tout compris. Ah, très bien. Quand vous étiez tout compris au cours, c'est l'immanence. Tant mieux. J'ai rien compris. C'est très transcendant. Alors transcendance, immanence, ne les employez qu'après avoir bien pris le barème par lequel vous mesurez l'océan. Parce que l'océan me met en face de quelque chose que je ne peux pas mesurer. Et la découverte de l'être, c'est quelque chose que je ne peux pas mesurer. Comme je ne peux pas mesurer l'être et que je ne peux pas mesurer Dieu, tous les deux sont transcendants. Et c'est pour ça que si facilement on identifie la découverte de l'être en acte et Dieu. Alors c'est pas la même chose du tout. L'être en acte, c'est un principe. Dieu, c'est la source de tout principe. Et Dieu est au-delà de tout principe, puisqu'il en est la source. Il est transcendant. Est au-dessus. C'est un poion infini. C'est pas seulement la ratio intis, mais c'est un poion infini qui dépasse tout. Bon. Alors maintenant, regardons le poion de l'exister. L'être en acte. À partir de ce principe saisir ce qu'il y a d'ultime dans tout ce qui est. Ce qu'il y a d'ultime, donc selon la fin, dans tout ce qui est, c'est l'acte. Et je saisis immédiatement, à partir de là, le principe de finalité. Tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. Principe de finalité dans l'ordre de ce qui est. Et je précise ensuite quelle est la première réalisation Poyanti de l'acte au niveau de l'être. C'est laisser. L'être en acte, laisser l'exister. Alors, si je regarde le langage habituel, je vois que ce qui est, c'est ce qui existe. Ce qui n'est pas uniquement un possible, ce qui n'est pas uniquement dans mon imagination, c'est ce qui est. Ce qui est se trouve réalisé dans notre monde comme un poyanti. C'est-à-dire comme une res, une réalité existante. Comme un ceci existant qui transcende mon imagination, qui transcende l'intelligibilité et qui est la mesure de tout ce qui est en acte. Dans l'acuité, c'est le Do Einein du Tien. L'acuité n'est pas l'être en acte. Nécessairement un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Cette affirmation transcende toute quiddité. Parce que la quiddité, c'est ce que je peux définir. La quiddité, c'est ce que je saisis en premier lieu comme quelque chose qui s'impose à moi, qui a son intelligibilité propre. Donc, que je peux définir. ce qui est premier par rapport à mon intelligibilité et ce qui est premier par rapport à l'être. Oui, ça c'est capital. Si on comprend cela, on évite tout ontologisme. Et c'est pour ça que c'est si important la découverte de l'être en acte. Parce que je peux tout de suite préciser cela. Le premier poyonti. Oui, ce qui est premier pour moi dans l'ordre de l'intelligibilité. Une définition. L'acuité. C'est quelque chose de nécessaire dans l'ordre de l'intelligibilité. Pour moi. Mais ce n'est pas ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Ce qui est premier dans l'ordre de l'être me dépasse. Je n'en ai pas l'acuité. Cela existe nécessairement. Donc cela existe nécessairement, scientifiquement, selon un catoto philosophique. Mais ce n'est pas ce qui, pour moi, est premier. Dieu est au-dessus, l'existence de Dieu est au-dessus de ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité pour moi. C'est pour cela que Thomas d'Aquin dira « L'existence de Dieu n'est pas évidente. » Si elle était évidente, j'en aurais l'acuité. Et ce serait premier pour moi, dans l'ordre de l'être, non seulement de la tête de mon intelligibilité, mais aussi dans l'ordre de l'être. Ce que affirme tout l'ontologisme, ce que Descartes désire, avoir une preuve, modo géométrico de l'existence de Dieu. À partir de là, il n'y aura plus d'athée. Mais est-ce que c'est possible? C'est remettre Dieu au niveau de mon intelligibilité. Alors ce n'est plus Dieu. Si Dieu existe, il est premier dans l'ordre de l'être. S'il est premier dans l'ordre de l'être, il n'est pas premier pour moi dans l'ordre de mon intelligibilité. Pourquoi? Parce que ce qui est premier pour moi dans l'ordre de l'intelligibilité, ce n'est pas nécessairement l'être premier. Je ne suis pas l'intelligence première. Mon intelligence